Bonjour et bienvenue sur notre podcast Vis-à-vis, le podcast du ministère de l'Intérieur. Alors vous nous connaissez maintenant, parce que ça fait quelques temps qu'on a cette série de podcasts que vous appréciez d'ailleurs particulièrement, et je remercie tous nos auditeurs et tous ceux qui nous suivent. Alors ce podcast du ministère de l'Intérieur, c'est un podcast qui rassemble des personnalités, des experts, des agents du ministère de l'Intérieur, mais aussi nos partenaires, parce qu'on travaille avec plein de professions. Des fois aussi des citoyens s'expriment sur ce podcast pour nous expliquer comment et quand ils ont bénéficié de l'action de protection du ministère de l'Intérieur. Alors aujourd'hui, nous avons trouvé un petit coin calme, mais il ne va pas rester calme très longtemps parce qu'on est au milieu d'une véritable fourmilière, une ville dans la ville qui est d'ailleurs à cheval sur 6 villes différentes. Mais je ne vais pas laisser trop de suspense parce que vous allez l'entendre très vite. Nous sommes ici à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Peut-être certains d'entre vous le connaissent, ceux qui ont la chance d'aller prendre l'avion vers des destinations ensoleillées. Cet aéroport, c'est le plus important de France, le deuxième plus grand d'Europe, je crois, si c'est vrai. J'ai lu ça dans le journal, que c'est le neuvième plus important du monde. Il y a des millions et des millions de passagers tous les jours. Et ici travaillent pas mal d'agents du ministère de l'Intérieur. Vous le savez peut-être pas, mais il y a un préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plateformes aéroportuaires à Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly et au Bourget, qui veille tout simplement à la bonne organisation de la sécurité et de la sûreté, notamment pour l'application des mesures contre le terrorisme, le plan Vigipirate. Cette préfète qui gère à cette sécurité a aussi la coordination de tout un tas d'acteurs pour la sécurité des aéroports, notamment de la police aux frontières, mais aussi des douanes, des agents privés de sécurité, des gendarmes qui sont aussi présents sur la plateforme aéroportuaire, des armées aussi avec l'opération Sentinelle. Bref, dans cette fourmilière qu'on vous présente aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi deux experts qui connaissent particulièrement bien leur domaine, Geoffrey et Alexis. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Merci d'être avec moi. On va peut-être commencer par toi, Alexis. Tu es contrôleur des douanes de la branche surveillance. Tu es très jeune. Comment, quand on choisit son métier, on décide de devenir douanier et de travailler dans un bel aéroport comme Roissy?
Le choix de l'affectation, j'avoue qu'il n'a pas forcément été choisi. Parce que quand on sort d'école, on a une liste.
Alors déjà, l'école, elle est où? Moi, je ne sais pas.
L'école des douanes est à La Rochelle.
D'accord.
Donc on est affecté suivant un classement, en fait. Donc, moi, mon
un peu comme nous à la police, je crois.
Il me semble que c'est la même chose. Et moi, à ma sortie de stage, en fait, il y avait peu de postes, beaucoup en région parisienne, et notamment à Roissy-Charles-de-Gaulle. Donc ça a été un peu, entre guillemets, contraint, mais j'en suis pas mécontent. 10 ans après, j'en suis pas mécontent.
Est-ce que tu es rentré dans les douanes pour... Qu'est-ce que tu avais en tête comme métier?
Est-ce que ça douanes, ressemble à ce que tu fais aujourd'hui? J'y avais pensé. Après, ce que j'allais faire en aéroport, ça, je savais pas. Et donc, je l'ai découvert vraiment en arrivant. Mais ça m'a plu, puisque ça fait 10 ans que je suis là. Donc.
Et cette branche surveillance, alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, même si c'est l'objet de ce podcast et qu'on va vraiment en parler de manière approfondie un peu plus tard?
Alors nous, les douanes, bah, c'est comme en police, il y a différentes branches. Et donc, nous, il y a deux branches. Une branche commerciale et une branche surveillance. Donc la branche commerciale, c'est le contrôle des marchandises et des agents en civil qui contrôlent le fret, en fait.
Donc les paquets, les
voilà,
marchandises.
Les colis de fret express, quand on achète un colis sur Amazon ou sur un site français, peu importe. Et après, il y a la branche surveillance, donc la branche à laquelle j'appartiens. Donc, c'est-à-dire, c'est une branche en uniforme, et là, c'est le contrôle des voyageurs, donc dans les ports, les aéroports ou sur la route, ce qu'on appelle communément la douane volante.
Alors toi, Geoffrey, tu es policier?
Tout à fait. Alors moi, contrairement à mon homologue douanier, la police aux frontières de Roissy-Charles-de-Gaulle, ça a été un choix. Donc durant mon année d'école de police, en fait, on a eu différents intervenants qui ont présenté les différents services, donc les CRS, la sécurité publique, il y avait la PAF, la police aux frontières. Ce qui m'a plu, d'une part, c'était tout ce qui était réglementation transfrontière et tout ce qui était fraude documentaire.
C'est hyper spécialiste tout ça.
Oui, et c'est ce qui m'a plu.
C'est durant... très technique.
Tout à fait, et c'est ce qui m'a plu. Et donc à la fin de l'année, donc, j'ai eu la chance d'avoir un bon classement. J'ai pu choisir la police aux frontières. J'ai été le premier à choisir la PAF. Et donc j'ai intégré la police aux frontières le 1er décembre 2007.
Alors je le dis à tout le monde, la PAF c'est la police aux frontières. Il y a encore des gens qui disent la police de l'air et des frontières.
Non, mais ça fait...
Voilà,
c'est la police aux frontières.
Il y a très très longtemps.
Tout à fait.
Toujours affecté à Roissy depuis le début de
tout
la carrière.
Tout à fait. Alors moi je suis garde frontière. Donc je suis garde frontière depuis le 1er décembre 2007 et donc en fait j'effectue des contrôles transfrontières au point de passage frontalier, donc pour faire simple c'est au niveau des aubettes.
Et donc, alors les aubettes, explique-nous ce que c'est exactement.
C'est là où on va contrôler les ressortissants qui quittent ou qui arrivent dans l'espace Schengen.
Ah oui, c'est les petites guitounes. C'est les petites guitounes.
Tout à fait.
Donc nous, on présente nos passeports ou notre.
Tout à fait, exactement. Donc moi, je travaille là, au PPF. Alors je tiens quand même à préciser que depuis quelques mois, en raison des attentats et au niveau et au vu de la crise sanitaire, sur instruction hiérarchique, on a renforcé nos contrôles. Donc on va contrôler au PPA, point de passage autorisé. C'est-à-dire qu'au sein même des vols Schengen, les vols intérieurs, on appelle ça. Donc si vous arrivez d'Espagne, d'Italie, de Grèce, vous pouvez très bien être contrôlé par la police aux frontières.
Alors c'est quoi ta journée type? Déjà, est-ce qu'il y a une journée type? Est-ce que tu fais toujours les mêmes horaires ou...
Moi, je suis en 2-2-3. Donc j'ai 15 jours, j'ai une vacation d'après-midi. Donc je fais midi 52, minuit.
Ah, c'est précis.
Ouais, tout à fait.
Et chaque minute compte.
Chaque minute, tout à fait. Et 15 jours, poste de matin. Donc 5h, 16h08.
D'accord, voilà. Donc c'est une petite organisation personnelle quand même pour arriver à faire.
Oui, tout à fait. Après, moi, niveau perso, ma femme est en hebdo, donc elle travaille sur l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle également.
Elle est policière aussi?
Non, elle est assistante des opérations aériennes, elle travaille dans les opérations aériennes.
On lui fait
aériennes.
Un petit coucou si elle nous écoute,
ouais.
Allez.
Ouais, elle sera contente. Donc pour l'organisation, comme elle est en hebdo et moi avec mon régime cyclique, ça, honnêtement, ça pose pas trop de problèmes pour les enfants.
Et ben voilà, les présentations sont faites, donc vous l'avez compris, on a avec nous un policier spécialiste des contrôles, des titres, des passeports, etc. aux obètes, et un douanier qui, lui, est spécialiste de surveillance. Alors, vous ne vous connaissiez pas, mais est-ce que pour autant, policier et douanier, on travaille ensemble à l'aéroport ou pas? Est-ce que nos missions sont complémentaires ou est-ce que des fois, eh ben, on se retrouve ensemble sur les interventions?
Personnellement, donc, je me suis retrouvé avec trois fonctionnaires de douane en fait, sur un exercice d'attentat, donc de lutte antiterrorisme. Et donc, je me suis retrouvé, moi, en exercice avec trois collègues douaniers à neutraliser un assaillant. Donc, il arrive qu'on effectue des exercices ensemble, qui sont utiles d'ailleurs.
Ça, c'est pour préparer une intervention majeure, mais ce n'est pas complètement fictif, parce qu'on a dans l'esprit qu'à Paris-Orly, il y a quelques années, ça s'était passé.
Tout à fait.
Donc,
On se prépare
avec tous les services et c'est des moments où on peut avoir à travailler ensemble.
Exactement. Et c'est super important.
Et toi, côté douane, Alexis, est-ce que tu travailles parfois avec les policiers ou vous êtes peut-être positionné à des moments différents des contrôles des voyageurs?
Alors nous, on est positionné après la police aux frontières. De manière classique, on est donc ce qu'on appelle aux arrivées, donc là où les gens récupèrent les bagages. Une fois qu'ils ont récupéré leurs bagages, précédemment, donc ils ont passé le contrôle documentaire de la police aux frontières, ils récupèrent leurs bagages et ensuite...
Des fois, il faut attendre un peu.
Des fois, il y a un peu d'attente.
C'est un euphémisme, des deux, fois, c'est beaucoup.
Pour les deux administrations. Une fois qu'ils ont passé qu'ils ont récupéré leurs bagages, ils passent le filtre douane, ce que nous, on appelle le filtre douane. Donc, c'est juste avant la sortie en zone publique, en fait. Et là, ils sont susceptibles d'être contrôlés. Donc, nous, on est entre guillemets en complémentarité et après la police aux frontières. Et après, dans nos missions de tous les jours, bah, ça m'arrive également d'avoir à travailler avec des policiers parce qu'on travaille aussi, de temps en temps, on fait des contrôles à l'exportation, c'est-à-dire pour des gens qui quittent le territoire. Et donc, dans ces cas-là, ça arrive qu'on soit avec des policiers. Ou alors, par exemple, quand on va chercher quelqu'un qui a été signalé, qu'on peut aller contrôler à la sortie d'un avion, vu que les policiers ont la priorité pour le contrôle des documents, c'est eux qui sont avant nous. Donc, ça nous arrive qu'on leur demande... un passager, et c'est eux qui font le contrôle, qui récupèrent la personne pour nous, en fait.
Et nous, on les sollicite également sur certaines fiches pour la fouille de bagages.
Donc une personne recherchée, c'est
exactement. Ça. Exactement. Donc eux, ils vont nous aider sur la fouille de bagages et ils vont nous apporter des renseignements.
Alors justement, cette fouille des bagages, comment elle se passe? J'ai bien compris, les douanes, c'est à l'arrivée. Et comment vous détectez une personne suspecte? Est-ce que c'est avec du renseignement, des informations des fois? Des personnes qui vous téléphonent pour vous donner ce type d'éléments? Ou alors vous avez vos propres sources, vos propres...
Déjà, juste pour que les gens comprennent bien, nous, vu qu'on est à l'arrivée, les personnes qui travaillent pour des sociétés privées et qui ont un uniforme assez typique, qui sont au départ... Ça, c'est des contrôles de sûreté. Je le précise parce que des fois, c'est vrai que les gens...
Les contrôles de sûreté, c'est des entreprises privées,
voilà,
qui sont
exactement.
Mandatées par...
Eux cherchent des liquides, des produits à base de pâte, enfin tout ce qui pourrait constituer un danger en termes de sûreté aéroportuaire dans l'avion.
Parce que donc des ça, fois, c'est des entreprises privées.
Voilà, parce que c'est vrai que des fois, les gens, quand on parle de la douane de manière générale, ont tendance à confondre éventuellement la police aux frontières ou nous, la douane, ou les sociétés privées ou éventuellement d'autres acteurs. Parce que suivant les pays, tout n'est particulier de la même façon. Dans certains pays, la douane est une même entité, en fait.
Donc nous, quand on est fouillé pour rentrer dans l'avion, ça, c'est des entreprises privées.
Voilà, exactement. Et donc nous, aux arrivées, bah, alors, les critères de sélection classiques, nous, on va dire, de manière générale, c'est la provenance. La provenance d'une personne, c'est le premier critère.
Donc certains pays ou certains
vols, exactement.
Il y a des facteurs de risque différents.
Exactement. Nous, en termes de lutte contre la fraude, il y a des pays qui sont plus ou moins intéressants. Et donc après, c'est le chef d'équipe tous les matins qui décide, on va plutôt axer les contrôles sur tel vol ou tel vol. Donc le premier critère de sélection d'une personne, c'est déjà la provenance.
Donc ça peut être des pays où il y a beaucoup de contrefaçons, où il y a du trafic de produits stupéfiants, par exemple, etc., que vous allez cibler par rapport au vol, d'accord.
Exactement. Après, il y a d'autres critères. Il y a aussi des contrôles à l'initiative. Donc quand on voit une personne se présenter à nous, bah, on peut la contrôler.
Donner tous les trucs et astuces, faut qu'il reste
non,
un petit peu
surprise. Non, on peut pas tous les donner, mais après, il y a clairement un facteur humain, donc en fait, il y a une question de feeling aussi, ça joue. Hein,
est-ce que vous faites aussi du renseignement, un peu comme en police judiciaire, par exemple ?
On fait un petit peu de renseignement, après, moi, j'ai tendance à dire que je suis un douanier lambda, c'est-à-dire que je suis l'agent type à la frontière, donc c'est il y a des services spécialisés qui font plus de renseignements. Nous, on en fait un petit peu, mais après, ça remonte, et je pense que collègues de la PAF, c'est la même chose.
Ouais, nous, on en fait pas mal du renseignement.
Alors raconte-nous ça, c'est intéressant.
Alors nous, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous déjà on contrôle toutes les personnes.
Donc,
100%. Voilà, on contrôle toutes les personnes. Donc comme je l'ai dit, principalement les gens qui viennent, qui veulent rentrer dans l'espace Schengen ou les gens qui arrivent de l'espace Schengen. La différence par contre, elle va se faire sur le type de contrôle. C'est-à-dire nous, on va différencier les ressortissants de l'Union Européenne qui vont faire l'objet d'un contrôle minimal, je vais l'expliquer, aux ressortissants de pays tiers qui eux vont faire l'objet d'un contrôle approfondi. Mmh.
C'est-à-dire si on est européen, c'est plus simple de circuler, on le
voilà,
sait, c'est le principe des accords européens.
Tout à fait, et ça va être un contrôle minimal. Donc je vais l'expliquer tout de suite. La première chose que le garde frontière il va regarder quand il prend le passeport, c'est la durée de validité du passeport. Ça, c'est la première chose. Donc la première chose que je vais regarder, c'est la durée de validité. La deuxième chose, c'est bien évidemment que ce passeport il soit reconnu. Je donne un exemple.
C'est-à-dire qu'il soit...
Que ce soit pas un passeport fantaisie, par exemple.
Okay.
Et même reconnu, par exemple, je vais donner un exemple concret, un passeport d'urgence américain n'est pas reconnu par les autorités françaises. Un Américain, ressortissant américain, ressortissant de pays tiers, donc qui se présente à la frontière avec un passeport d'urgence américain, il ne rentrera pas. Donc ça, on va regarder. La deuxième chose qu'on va regarder, c'est la photographie du document. Donc tout simplement, on va s'assurer que la photo qui est sur le passeport, ce soit
la bonne personne
correspond
en face
à la
de
personne
vous.
Qui est en face de nous. Tout à fait. Tout
et
simplement.
Souvent, les passeports, on a pu le faire il y a longtemps et on avait plus de cheveux, pas de lunettes.
Oui, tout
etc.
à fait. Mais après, on a des éléments, nous, qui vont nous permettre de déterminer que c'est la bonne personne. On va regarder au niveau des sourcils, on va regarder au niveau de l'alignement des yeux, le nez, la bouche, les oreilles.
Donc les oreilles, elles ne changent pas.
Non, les oreilles ne changent pas. Tout à fait.
C'est bon,
les
bon.
Oreilles.
Ouais. Vous avez une formation pour ça
tout
parce
à fait.
Que c'est
on
super
a une formation.
Compliqué.
Ouais. Alors, il faut savoir qu'à l'aéroport de Roissy, chaque garde frontière est très bien formé. On a la chance d'avoir un service qui s'occupe que de la formation. Donc, que ce soit sur la fraude documentaire, sur la réglementation et sur plein d'autres choses, on est régulièrement formé. Ça, je tiens à le préciser.
Donc, l'état du passeport,
voilà.
S'il est reconnu, la photo.
Voilà, photo. Et ensuite, l'authenticité du document de voyage. Alors là, par contre,
donc,
on a plusieurs outils.
Un vrai passeport et que ça ne soit pas une contrefaçon.
Ouais. Une contrefaçon. Une falsification.
Ouais,
après, on a différents éléments de fraude.
Un
doc,
passeport
on va dire.
Volé.
Passeport volé, tout à fait. Donc, on a différents outils, nous, de base, qui vont permettre de voir si le passeport il est authentique. Donc, la première chose, c'est le compte fil, c'est une loupe. Donc, ça va nous permettre de vérifier.
Une loupe. Ah, bah oui.
On va dire un compte fil.
C'est simple, mais c'est efficace.
Tout à fait. Chaque garde frontière est muni d'une loupe. Donc, avec ce compte fil, on va vérifier s'il y a des traces de grattage. Par exemple, au niveau du visa, on va vérifier que le visa il est valide.
Ah, qu'on n'a pas changé la date, par exemple.
On va vérifier le type d'impression, si c'est du jet d'encre, si c'est du laser. Bon, après, je ne vais pas aller trop dans le détail.
Non, gardez des secrets.
Ouais. On a également un autre outil, donc en obète, qu'on a à notre disposition, c'est le FIDU Contrôle P3. Donc, ça va permettre de vérifier les sécurités du passeport sous UV, sous lumière UV. Donc, par exemple, si vous prenez un passeport ordinaire français, vous avez un fil de sécurité. Donc,
ah
ça,
oui,
on va le blanc
qui renvoie
rouge,
la lumière.
Tout à fait. Et ça, on va le voir sous UV. On a des fibres fluorescentes, on va les vérifier. On a également, sur le fil du contrôle P3, la lumière blanche. Donc ça va nous permettre de vérifier le filigrane. Donc même vous à la maison, ceux que ça intéresse, vous prenez n'importe quelle page de votre passeport, vous allumez votre lampe de chevet, vous le mettez au niveau de l'ampoule, et vous allez voir un filigrane, donc ce sera la Marianne, à l'intérieur du papier. Donc ça, c'est une sécurité que nous, on va voir en lumière blanche, avec le fil du contrôle P3.
En fait, c'est une petite prouesse de technologie, ce passeport.
Exactement. Tout à fait. Le passeport, donc là, j'ai pris l'exemple du passeport ordinaire français. Après, il faut savoir que chaque pays a ses sécurités, ses spécificités. Mais chaque passeport
et
est de plus en plus...
Et vous regardez à chaque fois tout cela pour chacun, 100%
oui.
des passagers
Les deux outils-là que je vous ai dit, le compte fil et le fil du contrôle P3, honnêtement, c'est régulier. On le fait régulièrement. Après, on a d'autres outils plus approfondis. Mais
quand on a un doute, c'est ça.
Voilà. On va appeler ça des contrôles de seconde ligne. Là, on est en contrôle de première ligne au PPF. Si on a un doute, ce sera des contrôles de seconde ligne. Et enfin, une fois qu'on a vérifié l'authenticité du document de voyage, on va vérifier les fichiers. fichiers. Donc, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Sachez quand même.
Alors,
qu'on
les
a...
fichiers, c'est les personnes qu'on a déjà vues passer par les services de police et de gendarmerie et qui sont ont déjà un casier ou qui sont connues de nos services.
Ça dépend. Alors, vous avez le FPR, le fichier des personnes recherchées, c'est une base nationale. Vous avez également le SIS, le système d'information Schengen.
Qui est international.
Tout à fait.
Donc une personne recherchée en Allemagne.
En Italie, elle va ressortir exactement à la frontière, tout à fait. Donc on a le 6 personnes et le 6 documents. Donc les documents perdus, volés, détournés, c'est pareil. Ils vont apparaître sur ce fichier.
J'espère que tous les auditeurs qui nous écoutent comprennent bien que c'est très très compliqué et que tout ça c'est fait pour protéger nos frontières, protéger la sécurité sur notre territoire et que c'est pour ça que des fois c'est un petit peu long parce que quand il y a beaucoup de monde et qu'il faut faire tous ces contrôles et on n'a pas le droit à l'erreur aussi parce qu'il ne faut pas laisser rentrer une seule mauvaise personne.
Tout à fait. Et notre dernier fichier, donc c'est le SLTD, le Stolen Last and Travel Document, donc c'est la base Interpol. Donc une fois qu'on a fait ça, on a fait notre contrôle minimal.
Ah, ça, c'est le minimal.
Ça, c'est le minimal, ouais. C'est tous les ressortissants, voilà. Et ensuite, vous avez le contrôle des RPT, donc des ressortissants des pays tiers, donc hors Schengen. Donc, eux, ils vont faire l'objet d'un contrôle approfondi. Donc, on va reprendre exactement les mêmes points de contrôle que le contrôle minimal, mais ensuite, on va regarder le visa. Donc, il y a deux types de RPT. Le RPT qui est soumis à visa, le RPT qui n'est pas soumis à visa. Je précise que celui qui n'est pas soumis à visa, il ne peut pas séjourner sur le territoire Schengen plus de 90 jours sur une période de 180 jours. Donc, il y a quand même une durée de séjour à respecter. C'est pas parce qu'il n'a pas de visa qu'il peut séjourner 6 mois dans l'espace Schengen. Petite précision, je ferme la parenthèse. Donc on va vérifier le visa, si le passeport il a besoin d'un visa. Le visa, c'est comme le passeport, on va regarder les durées de validité du visa, on va regarder le type de visa. Donc on a des visas de transit, le VTA, on a le visa de court séjour, le visa C, celui qu'on rencontre le plus souvent à la frontière, donc qui concerne les touristes. Et on a le visa D, donc c'est le visa de long séjour, donc des visas jusqu'à un an, qui concerne souvent les étudiants. Ensuite, on a des outils qui permettent de vérifier le visa, donc notamment le VIS, système d'information du visa, avec l'empreinte biométrique. Et ensuite, on va questionner la personne. Une fois qu'on a vérifié le visa, on va questionner la personne.
Il y a un petit entretien plus.
D'accord. Concrètement, on va lui demander des justificatifs relatifs à l'objet et aux conditions de séjour.
Pourquoi elle vient,
tout à fait. Le billet-retour, combien de temps elle vient, le billet-retour.
Et vous vérifiez que c'est concordant par rapport à...
À ce qu'elle nous dit, voilà. Exactement, tout à fait. Et une fois qu'on a fait tout ça, on va composter. Donc chaque garde frontière est muni d'une loupe, d'un compte-fil comme je vous l'ai dit, mais également d'un composteur. Le composteur,
c'est le coup de tampon.
Oui, voilà, tout à fait. C'est très important parce que
en
ce
plus,
coup de tampon.
On aime avoir des coups de tampon sur nos passeports.
Alors je vais faire une petite précision.
Ça nous fait des souvenirs quand on rentre.
Alors, le composteur, c'est très important. Il permet de déterminer le lieu de passage du point de passage frontalier et la date. Ça va nous permettre de calculer les durées de séjour. Je précise que beaucoup de gens, notamment des ressortissants français et des mineurs, malheureusement, nous demandent souvent, comme vous avez dit, des souvenirs du tampon. Eh ben, c'est interdit. Alors. Souvent, enfin toujours, on dit non. Alors, il faut savoir, ce n'est pas nous, mais c'est interdit. C'est sérieux.
Il faut vraiment avoir un visa, c'est quelque chose de sérieux.
Exactement, tout à fait.
C'est bien noté.
Voilà.
Alors, tous ceux qui pensent que parfois la frontière est une passoire, en tout cas, ce n'est pas le cas à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Ça, c'est certain.
C'est certain.
Parce qu'on a bien vu la multitude de contrôles aux voyageurs et sur les marchandises par les douanes. Alors, à tous les deux, j'avais une question. Est-ce que vous avez une intervention particulière ou quelque chose d'insolite que vous avez à nous raconter, soit dans les bagages que vous avez pu ouvrir, vous qui avez parfois la chance d'ouvrir comme ça les bagages des gens, ou alors un contrôle particulier qui a pu être mené, peut-être toi, Geoffrey ?
Oui, alors moi j'en ai un. Donc, il y a quelques temps déjà, bon, moi ça m'a pas trop fait rire, mais mon collègue il s'est bien marré. Donc en fait, on contrôlait les ressortissants de l'espace Schengen, ressortissants européens, et au milieu de la file, donc on avait repéré un individu donc très grand, très costaud. Et donc il me regardait.
Un rugbyman.
Alors je sais pas si c'était un rugbyman, mais il était très costaud, très grand, donc on pouvait pas le louper. Et il me regardait avec insistance. Et moi je me suis dit, je pensais, ah bah, c'est peut-être quelqu'un que j'ai connu dans l'Est, qui m'a reconnu, ou quelqu'un qui voulait me poser des questions, parce qu'on a énormément de questions qui nous sont posées à la frontière. Et donc arrivé au contrôle, donc faut savoir que le dispatch, il est effectué par une hôtesse, c'est pas nous qui choisissons qui on va contrôler. Donc cet individu, il devait passer avec mon collègue, il demande à l'hôtesse, non, j'aimerais bien passer avec ce policier. Donc l'hôtesse, elle me regarde, et je dis, bon ok, pas de souci. Donc le passager se présente, en fait je prends le passeport. Et au moment où j'ouvre le passeport, il y a une photo de lui en maillot de bain avec un numéro de téléphone. Donc le collègue, il éclate de rire. Moi, gêné. Donc je regarde la personne et là, il me fait un clin d'œil. Donc j'ai laissé tomber le passeport, la photo, le numéro de téléphone. Bon, j'ai quand même fait le contrôle, je tiens à le dire.
Et sérieusement,
bien sûr. Mais c'était un contrôle minimal quand même. Et donc, voilà.
Comme quoi, on peut faire des rencontres, même dans les aéroports. Mais
oui.
C'est assez étrange, effectivement. Et toi, Alexis, est-ce qu'il y a quelque chose d'insolite que tu as en tête, ce qui doit vous en arriver tous les jours avec les douanes?
Les rencontres insolites, oui, j'en ai en tête. Alors nous, c'est souvent plutôt avec des animaux, alors qui peuvent être
dans les bagages, il y a des animaux, ou morts
ou vivants. Donc je suis désolé pour les gens qui aiment beaucoup les animaux, mais c'est des choses qui arrivent.
Les gens mettent leurs animaux dans des bagages?
Ça arrive. Alors souvent, c'est des choses...
Raconte-moi.
Alors, ça nous est déjà arrivé d'être appelé pour quelqu'un qui transportait des oiseaux dans son sac sur un vol en provenance de Cuba. Donc, c'est interdit.
Ah, bien sûr.
Donc, les pauvres petits oiseaux étaient dans le sac. Donc après, bon, il y en a toute une procédure à suivre. Mais,
comment ça se passe d'ailleurs? Les animaux partent aux zoos?
Souvent, il y a une station vétérinaire sur la plateforme Roissy Charles de Gaulle. Et souvent, donc, ces animaux-là sont mis en station vétérinaire le temps de vérifier s'il n'y a pas de maladie, des choses comme ça. Et après, en général, c'est remis à des associations ou à la SPA, oui, exactement.
D'accord.
Après, des fois, ça se passe pas tout le temps comme ça.
Des serpents aussi ? Non, mais là, tu m'intrigues avec.
Serpents, ça arrive aussi. Alors, moi, j'ai une autre anecdote. Et là, par contre, celle-là, elle est... Comme mon collègue de la PAF, moi, ça m'avait fait rire. Mais le collègue qui a ouvert la valise, ça l'a pas fait rire. En fait, moi, j'étais à côté. Et lui, quand il a ouvert la valise, en fait, il a entendu un bourdonnement. En fait, il a ouvert tout doucement la valise. Et là, il y a une abeille qui est sortie. Donc, il a vite refermé la valise. Et en fait, la personne transportait des bocaux en verre avec des abeilles dedans. Et il y avait un bocal qui avait cassé durant le voyage. Donc
les abeilles, très étrange. Quand même.
Oui, les abeilles étaient en liberté dans la valise. Et cette personne s'est présentée comme, je ne sais pas quel est le nom exact, mais un apithérapeute ou quelque chose comme ça. En fait, quelqu'un qui pratique une médecine parallèle pour soigner les gens avec les piqûres d'insectes, avec le venin. Parce qu'il y a des propriétés en médecine, des propriétés dans le venin. Et donc, il venait soigner des personnes fortunées, aisées, on va dire, qui ont recours à ce genre de médecine. Et sauf que c'est pareil, c'était interdit. Et en plus, c'est potentiellement dangereux, parce que le collègue qui a ouvert la valise tout doucement, ça l'a pas fait rire de voir des abeilles commencer à sortir. Et après, d'un point de vue, des animaux, c'est vrai que c'est un peu triste de voir des abeilles dans une valise. Ça n'a rien à faire là-dedans.
C'est passé à place naturelle. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous refaire un petit point? Parce que j'espère que parmi nos auditeurs, personne n'a des idées aussi étranges que de refaire venir des animaux vivants de pays de voyage. Mais est-ce que tu peux nous faire un petit point sur tous les objets qui sont interdits et pourquoi en fait?
Les objets interdits, c'est tout ce que nous on appelle marchandises prohibées. Donc en fait, classiquement, c'est les produits stupéfiants.
Tout ce qui est déjà illégal en fait.
Voilà, donc c'est-à-dire en gros les produits stupéfiants et les contrefaçons. Dans les deux cas, c'est illégal.
Donc c'est illégal déjà en France et donc c'est aussi illégal de les ramener de pays étrangers.
Voilà, exactement. Après, il y a pas tant de marchandises que ça qui sont interdites d'un point de vue douanier, je parle. C'est souvent des marchandises qui nécessitent une autorisation,
une déclaration,
ou un papier, ou une déclaration. Voilà. Il y a quelque chose qui doit être fait pour que la marchandise ait un statut légal.
Et ça, c'est pas fait pour enquiquiner les gens, c'est fait aussi pour protéger notre pays en termes sanitaires, en termes épidémiques.
Exactement. La nourriture, par exemple, est interdite parce qu'il doit y avoir certains certificats sanitaires sur certains types de produits. Les armes, il faut certains papiers parce que forcément, on peut pas rentrer, que ce soit même pour la chasse, ou on peut pas rentrer avec n'importe quel type d'arme ou n'importe quel type de munitions. En plus des prérogatives en matière de sûreté aéroportière, parce que transporter des armes dans un avion, c'est pas anodin.
Mais tout cela est passionnant. Donc en fait, vous êtes tous les deux des grands experts du droit. Parce que toi, tu l'as expliqué, Geoffrey, sur tous les passeports, les titres, etc. Il faut être hyper calé, mais il faut aussi bien connaître toute notre législation française, l'adaptation qui est faite sur le transport de certaines matières, marchandises, pour faire votre boulot.
Oui, tout à fait.
Et vous avez des bonnes formations pour ça?
Oui, comme je l'ai dit avant, à l'aéroport de Roissy, à la PAF notamment, on a la chance d'avoir une structure de formation à part entière. Et eux, ils nous forment vraiment de base sur la réglementation. Déjà, tous les nouveaux arrivants, ils sont formés 3 semaines sur la réglementation transfrontière. Donc, ils mangent la réglementation pendant 3 semaines. Ensuite, ils sont affectés en aérogare et on a des tuteurs. Donc, moi, je fais partie des tuteurs et on va les suivre. Et puis, on va les former. Puis, avec mon expérience, notre expérience, ça va faire que des bons gardes-frontières.
Et toi, Alexis, tu repars à l'école à La Rochelle quand il y a des formations? Comment ça se passe chez
nous? C'est à peu près pareil que mon collègue de la PAF, c'est que nous on a une formation généraliste à La Rochelle et quand on arrive ici à Roissy on a un service de la formation professionnelle qui aussi nous dispense des formations. Nous après c'est des formations par thème en fait et on les fait au fur et à mesure, donc c'est après les premiers jours il faut quand même se lancer dans le grand bain et voilà.
Et j'imagine il y a aussi des formations quand il y a la mise en place de nouveaux dispositifs. Moi j'ai pris l'avion l'autre jour. J'étais très contente. Et j'ai découvert un dispositif qui permet de présenter son passeport, on le met dans la machine et ça détecte si on a le droit de passer ou pas. Et ça, il faut être formé, j'imagine, parce que...
Alors, tout à fait. Alors ça, c'est le système PARAF. C'est le passage rapide aux frontières extérieures. Alors, concrètement, c'est un gain de temps. C'est un contrôle automatisé.
Pour les voyageurs, mais pour vous aussi, c'est plus simple.
Oui, quand ça fonctionne bien, c'est plus simple. Voilà.
Oui. Comme tout outil technique.
Tout à fait. Après, je tiens quand même à apporter une précision, parce que l'autre jour, à la radio, j'entendais, donc les gens, enfin une personne se réjouissait de la réouverture des parafes à l'aéroport, et notamment, il disait sur la circulation des mineurs. Je précise quand même que les mineurs, c'est 12 ans révolus, et c'est uniquement le paraf des arrivées, ceux qui rentrent dans l'espace Schengen. Au départ, les mineurs ne passent pas paraf, ils passent par un contrôle directement par le garde-frontière. Il y a une législation très stricte en matière de mineurs, notamment au départ, donc je vais la rappeler, tiens, parce que ça va être les vacances scolaires bientôt et on a pas mal de soucis avec ça, donc ce sera bien. Donc il faut savoir qu'un mineur français ou un mineur étranger résident habituellement en France, donc concrètement qui est pourvu d'un titre d'identité républicain ou d'un document de circulation pour étrangers mineurs, un DCEM, il est obligé, s'il ne voyage pas avec ses parents ou son tuteur légal, d'avoir une autorisation de sortie de territoire.
Ah oui, ça c'est vrai, c'est bien de le dire.
Je précise que cette AST,
elle
est à remplir, qui est disponible sur le servicepublic.fr, donc
c'est
via Internet.
Formulaire à remplir.
Tout à fait. Donc on le sort, on le remplit, on signe bien, le parent signe et il joint sa carte d'identité. Enfin, une photocopie de sa carte d'identité, d'identité ou de passeport. Donc, je précise bien, un mineur donc, qui voyage avec son cousin, son frère, sa sœur, il lui faudra une AST.
Et lui, il ne passera pas dans paraf.
Il ne peut pas, exactement, il sera contrôlé. Et je précise également, parce qu'on a des soucis avec les mamans, donc ça arrive, il n'y a pas le même nom, parce que nous, en fait, il faut qu'on matérialise que vous êtes bien la maman de l'enfant. Il n'y a pas le même nom, il n'y a pas la même adresse, pour des raisons de mariage, divorce, ou il y a de déménagement. Ramenez le livret de famille.
Ah oui.
Parce que nous, il faut qu'on puisse matérialiser que vous êtes la maman.
Bon, ben voilà, j'espère qu'on aura aidé ainsi la fluidité du trafic et du contrôle au voyageur.
J'ai une petite anecdote, d'ailleurs, sur un mineur que j'ai bloqué au niveau du terminal T3. Donc c'était il y a quelques années, en juin 2017. Donc on a un mineur qui s'est présenté, donc 16 ans, il regagnait la Turquie. Donc je lui ai posé certaines questions. En fait, c'était pas la période scolaire. Donc ça m'a étonné qu'il voyageait en Turquie. Je lui ai demandé pourquoi il allait là-bas. Il m'a dit qu'il connaissait des amis, qu'il avait connus sur Internet. Et au niveau de son AST, donc quand j'ai demandé son AST, l'autorisation de sortie de territoire, elle n'était pas signée. Donc de base, ça commençait comme ça. Je lui ai demandé le numéro de son père, parce que c'était son père qui avait rempli l'AST, et il me dit non, il ne parle pas français. Donc
il y avait plusieurs éléments bizarres.
Voilà, ses déclarations, plus l'AST pas signée, on a fait un contrôle de seconde ligne. Donc là, j'ai ramené au CAR, au service du CAR. Tout à fait. Et donc en fait, j'ai pu joindre son père qui parlait très bien français d'ailleurs, et il n'était pas au courant que son fils partait. Et en fait, après enquête, il s'avérait qu'il voulait rejoindre la Syrie, il voulait passer par la Turquie pour aller en Syrie. Donc tout ça pour dire que l'AST, c'est très important.
Et ce jour-là, tu as sauvé cet enfant, sauvé sa vie,
on a fait notre travail,
son avenir.
Notamment grâce à la réglementation.
Bravo. Voilà. Bravo à toi et à tous les collègues qui font ce travail.
Exactement.
Je parlais de fourmilière pour désigner l'aéroport Charles de Gaulle en introduction. C'est aussi un travail de fourmi, mais qui doit être professionnel et bien fait chaque jour pour avoir des résultats. Et voilà, ce que tu as fait ce jour-là et ce que tes collègues font sûrement au quotidien, particulièrement important. Qu'est-ce que vous diriez, chacun d'entre vous, à des jeunes qui veulent vous rejoindre ? C'est vrai que des fois, quand on veut être douanier, qu'on veut être policier, on ne sait pas trop quel métier nous attend. Et pourquoi finalement, c'est passionnant de travailler ici en aéroport ?
Je dirais que pour être douanier, il faut avoir un bon esprit, il faut être très curieux.
Il
faut être très curieux et toujours aimer fouiner. Je pense qu'en police, c'est aussi le cas.
Exactement.
De toute façon. Surtout en police aux frontières, après peut-être en sécurité publique, ça l'est peut-être un petit peu moins, mais je pense que voilà, la curiosité et s'intéresser au monde qui nous entoure. Et après.
Et à l'aéroport.
Et à l'aéroport, oui, parce que l'aéroport, pour le coup, comme vous disiez, l'aéroport, c'est vraiment. Ici, c'est vraiment une réelle fourmilière. Avant de connaître vraiment déjà son environnement de travail, je pense qu'il faut au moins 2 ans.
Waouh!
Je rejoins mon homologue douanier, il a raison. Après. Pour la police, en général, l'avantage, c'est qu'il y a énormément de services. En ce qui concerne la police...
Faire de l'enquête, du contrôle...
Voilà, tout à fait. En ce qui concerne la police aux frontières, donc là, je tiens à préciser, moi, je parle du PPF, donc du contrôle au PPF, parce que je suis garde frontière. Après, à l'aéroport de Roissy, il y a d'autres services. Il y a la police judiciaire, il y a du renseignement, il y a de la sécurité publique, il y a de la sécurité routière.
Donc on peut tout faire en fait en étant policier à l'aéroport.
Exactement, on peut tout faire. C'est selon ce que les gens ils aiment. Par exemple, la frontière, il faut aimer la réglementation transfrontière et il faut aimer la fraude doc.
Merci vraiment à tous les deux de nous avoir fait découvrir ces coulisses des aéroports. Parce que c'est vrai, quand on a la chance de voyager, on voit une petite partie, mais par cette lorgnette du voyageur. Et on imagine, mais sans trop savoir, tout ce qui se passe derrière et les différents métiers. Donc merci Geoffrey, merci Alexis. J'espère aussi qu'on aura mieux expliqué aussi à nos concitoyens pourquoi des fois il faut attendre un peu et sans s'énerver et en restant très poli avec les policiers et les douaniers qui sont là pour notre sécurité. En tout cas, bon retour chacun dans vos brigades respectives. Et voilà, on regardera plus de la même manière la police aux frontières et les douanes en aéroport.
Merci,
merci beaucoup.
À bientôt.